France Inter.
Aujourd'hui, Indignez-vous de Stéphane Hessel, histoire d'un texte et d'un résistant, raconté par
Sylvie Crossman, éditrice et écrivaine.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts des mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l'Europe était ruinée? Sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste avec ses propres serviteurs, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Les banques, désormais privatisées, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et des très hauts salaire de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important et la course à l'argent, la compétition autant encouragée. Le motif de base de la résistance étant l'indignation, nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons « prenez le relais ». Indignez-vous. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948 sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Stéphane Hessel, Indignez-vous, octobre 2010. Bonjour Sylvie Crossman.
Bonjour Mathieu.
C'est vous qui, avec Jean-Pierre Barrault, avez publié il y a 15 ans tout juste « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, ce petit texte qui a marqué beaucoup d'entre nous. Un livre qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, traduit aujourd'hui, vous me disiez, dans plus de 45 langues.
44 langues,
ouais. Oui. Succès mondial qui a suscité admiration, mais aussi scepticisme, on va le voir, et critique. Le texte revient dans une nouvelle édition revue et corrigée, préfacée par Salomé Saquet, c'est à la rue de l'Échiquier, et c'est l'occasion donc aujourd'hui de revenir avec vous sur ce phénomène littéraire. Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez rencontré Stéphane Hessel ?
Alors c'est un magnifique moment, on l'a rencontré en fait par un film qui était fait, réalisé par l'ami d'un de nos auteurs, un jeune enseignant, c'était Gilles Perret, qui avait filmé une intervention de Stéphane Hessel en 2009 au plateau, sur le plateau des Glières, le haut lieu de la résistance historique
en Haute-Savoie.
Et ce jour-là, on a regardé Stéphane Hessel se dresser et appeler la jeunesse au devoir d'indignation.
Vous le connaissiez ou pas ?
On ne le connaissait pas, non, pour tout vous dire. Enfin, il publiait au Seuil, où Jean-Pierre Barrault avait été éditeur, où moi-même je publiais des livres. Mais on ne le connaissait pas à proprement parler. Et on a téléphoné au Seuil, on a demandé son contact, on est allé le voir et lui a fait part de notre idée de publier un petit texte et d'abord de réfléchir sur cette notion d'indignation qui nous avait fortement marqué et surtout sa présence nous avait fortement marqué.
On va écouter justement l'extrait finalement de ce documentaire de Gilles Perret qui a tout changé et qui est vraiment le point de départ de l'histoire d'Indignez-vous. C'était donc en 2009 sur le plateau des Glières.
Je crois que le motif de base de la résistance, c'est l'indignation. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. Merci.
Voilà, 2009, donc, sur le plateau des Glières. Vous voyez donc l'extrait de ce documentaire.
Absolument, et là, on...
Donc, ce jeune homme de 93 ans.
Ce jeune homme, tout à fait, et on va le voir dans son vieil appartement de la rue Antoine Chantin, qui croise la rue Jean Moulin, hein, bizarrement, à Alésia. Et on lui parle de cette intention, et il nous dit, bon d'accord, mais à condition que ça soit des... Comme il est très sollicité, et c'est un grand militant associatif surtout, il nous dit, à condition que ça soit des entretiens. Donc on va conduire, Jean-Pierre Barou et moi-même, trois entretiens. Le premier en 2009, 19 novembre 2009, si je ne me trompe pas. Le deuxième en janvier, 14 janvier 2010. Et le troisième le 3 février 2010. Et puis après avoir enregistré ces interventions, on les transcrit, on lui renvoie, il corrige. Et le résultat, eh ben, c'est ce texte magnifique qui va être publié par notre maison d'édition indigène. En octobre 2010, le 20 octobre 2010, jour de son anniversaire, ce qui n'est pas un hasard, parce qu'il croyait beaucoup au signe et à sa chance presque diabolique.
Donc
et on lance ce texte à ce moment-là.
Il y a 15 ans. Le Seuil vous a laissé réaliser ce texte alors, parce qu'ils auraient probablement aimé avoir le même succès éditorial que vous.
Personne n'y avait vraiment pensé d'enregistrer, de dialoguer avec lui.
Donc vous avez eu la bonne idée.
Voilà, on a eu la bonne idée, et surtout au cours de cet entretien, et je crois que ce qu'il faut... noter ça, parce que ça a été une des raisons du succès. Au début, pour nos diffuseurs, on avait inscrit présenter le texte sous ce titre, un devoir d'indignation. Et puis très vite, en entendant parler ce vieux monsieur, ce vieux sage, nous qui avions beaucoup travaillé avec les initiés des sociétés aborigènes, amérindiennes, etc., on a senti la force du pouvoir oral de ce personnage. C'était comme, vous savez, dans l'Évangile, on dit le verbe fut et quelque chose se produit. Et bien là, on a eu très vite le sentiment que quelque chose allait se produire à partir de sa parole. Et donc, à la fin de ces entretiens, un jour, je téléphone à Stéphane, on était devenus amis, et je lui dis, écoute, je pense que non, le titre, c'est pas ça. Allez, indignez-vous, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, il fait sa petite moue, là, comme il faisait, il réfléchit un peu. Allez, va ma belle, allez, indignez-vous, c'est bon.
Et donc le texte
indignez-vous
sort. Indignez-vous
avec ce point d'exclamation qui va être ensuite beaucoup copié à la suite de ce texte, avec ce petit format, 3 euros, pour le rendre accessible au maximum de gens.
Alors les Français ne le connaissent pas, Stéphane Hessel, quand le texte sort...
Non, les Français ne le connaissent pas comme un homme public, vraiment. Alors ils le connaissent à travers toutes ces associations dont il fait partie.
C'est ça.
Vous voyez, parce que quand il a...
Les militants associatifs le connaissent.
Les militants associatifs le connaissent beaucoup. Et quand il a réchappé de trois camps, il s'est évadé à trois reprises, il échappe à Dorar, à Buchenwald, à Rottelberode, il dit une vie sauvée comme ça, il faut l'engager. Une vie restituée, il faut l'engager. Il faut la légitimer par son action. La survie doit être légitimée. Et donc, pour lui, c'est extrêmement important. Donc, il s'engage un peu partout. Mais au moment du succès, quand son nom va réapparaître, vous voyez, toutes ces espèces de réseaux, tout d'un coup, vont faire masse et vont provoquer cette espèce d'unité, de convergence, de lutte, de résistance qui va le porter très haut.
C'est quelqu'un, Stéphane Hessel, qui a eu plusieurs vies, et qui, évidemment, a incarné une certaine forme de résistance à la française. Résister, c'est refuser d'accepter le déshonneur, c'est s'indigner, disait-il. Un mot quand même sur son parcours, parce que c'est intéressant de le resituer aussi dans sa propre histoire. Lui qui est né en Allemagne, à Berlin. Une enfance qui a été marquée par une histoire d'amour très particulière entre son père, sa mère et l'amant de sa mère, l'écrivain français Henri-Pierre Rocher. Et je ne savais pas, cette histoire a donné naissance au scénario... Jules et Jim,
oui. Stéphane
de François Truffaut.
En 1917, il arrive en France 7 ans plus tard. Il va être naturalisé français à l'âge de 20 ans. Il dit lui-même « j'ai été un immigré heureux ». Et en quelques années, à 7 ans, il est inscrit à l'école communale de Fontenay-aux-Roses. Il apprend le français. À 16 ans, il passe son bac. Il baigne dans toute cette atmosphère...
Anticonformiste,
et puis très intellectuel quand même. Son père est le traducteur, avec Walter Benjamin, de Proust, dans La recherche du temps perdu. Son père, Franz Hessel, a connu Guillaume Apollinaire, qui deviendra l'un des poètes favoris de Stéphane Hessel, grand amoureux de philosophie, mais de poésie surtout. Sa mère va traduire Nabokov, Lolita, à l'âge de 75 ans, et lui va baigner dans cette atmosphère anticonformiste, où effectivement une femme va aimer deux hommes. Et d'ailleurs, elle tiendra un journal extraordinaire qui a été le journal d'Hélène. Sa mère s'appelait Hélène Grund, d'origine prussienne, alors que son père était d'origine juive. Elle va tenir ce journal extraordinaire qui a été publié des années plus tard par André Dimanche à Marseille et qui est vraiment le journal d'une femme libérée bien avant l'heure. Donc il est aussi l'héritier de ces personnages de cette Europe qui a existé,
de cette liberté profonde,
Europa, cette liberté profonde, cette culture profonde, et c'est aussi ça qui va faire son succès. Cet homme porte tout ça, il porte l'histoire d'un siècle, et donc on ne peut pas le taxer d'être illégitime quand il parle de la résistance, quand il parle de la guerre d'Algérie, quand il parle des immigrés pour lesquels il s'engage, quand il parle des sans-papiers. Donc c'est vrai que c'est aussi ça, vous voyez, sa légitimité d'homme et de personnage public qui a fait le succès de ce texte qu'il a porté à travers l'Europe.
Les poètes sont les premiers contestataires, c'est ce qu'il vous a raconté à l'occasion de ses entretiens.
Oui,
et d'ailleurs,
oui.
On le retrouve aussi dans une bande dessinée qui s'appelle Indignez-vous, qui était sortie aussi aux éditions Indigènes de Frédéric Debomy et Lorena Canotière.
Voilà.
Dans les camps de concentration, il se récitait lui aussi des poèmes.
Oui, il dira, c'est dans les camps, la poésie, c'était mon opium. Dans les bas-flancs, vous savez, quand ils étaient à 3 ou 4 têtes bêches, déportés à devoir dormir, ils se récitaient des poèmes parce que c'était une manière aussi de pouvoir tenir et de pouvoir entrer dans une sorte de... Il le dit aussi, les poètes, ils évoluent dans une sorte de réalité antérieure et de réalité supérieure. Et je crois que la poésie, par exemple, quand il est arrêté par la Gestapo, c'est vrai que c'est un jeune homme de 26 ans, il est aussi très, bravache, c'est un joueur, il a toujours été ça. Il glisse dans la poche de son veston, en route vers la torture de la baignoire, il glisse un petit papier sur lequel il a inscrit les premiers vers d'un sonnet de Shakespeare, le sonnet 71, « No longer mourn for me when I am dead », ne me pleure pas quand je serai mort, à l'intention de Vitia, sa femme, quand elle le trouvera. Donc la poésie a toujours été associée pour lui aussi à l'idée de mort et de danger, ce qui est très important.
On va écouter Sylvie Crossman un extrait d'une interview sur France Inter, ici même, c'était en novembre 2011, au sujet d'Indignez-vous, évidemment.
Nous vivons dans une complicité entre les gouvernements politiques et les autorités économiques et financières. C'est particulièrement frappant en France, où notre président est entouré de gens qui ont du bien et qui en ont même beaucoup. Il faut, me semble-t-il, que nous mettions un terme à cette complicité. Il faut que les gouvernements deviennent responsables de la justice sociale et aussi de la protection de la terre. Là-dessus, il y a à faire. Si on s'indigne parce que ces mesures-là ne sont pas prises actuellement, alors on fait bien de s'indigner.
Voilà, Stéphane Hessel en 2011, Nicolas Sarkozy est le président de la République à ce moment-là. Et il nous parle d'environnement aussi, dans cet extrait.
Oui.
C'est un sujet qui l'intéresse aussi.
Et que sa fille, d'ailleurs, Anne Hessel, aujourd'hui, qui est son ayant droit, reprend beaucoup, elle se bat. Et je crois que toutes les luttes, on dit souvent, mais alors qu'est-ce qui reste d'indignez-vous, de ces indignations? Je crois que ça, la lutte contre le réchauffement climatique, toutes ces associations de jeunes gens qui s'engagent vraiment corps et âme pour défendre la planète, c'est une cause qui découle d'indignez-vous et qu'il aurait beaucoup apprécié.
Il y a cette voix quand même de ce jeune homme, parce que là en 2011, il doit avoir 96 ans.
En 2011, il a 93. Oui, quand il écrit son texte, il a 93 ans. Donc 2010. En 2011, il a 94.
94
il est né
ans.
Le 20 octobre 2010.
Il y a cette voix très particulière qui a touché aussi, je pense, le public, non ?
Oui.
Il y a quelque chose qui passait d'une joie, d'une bonté.
Voilà. Encore sa mère, qui a été une des héroïnes de sa vie, elle lui disait, écoute, Stéphane, si tu as un devoir, c'est d'être heureux. Mais d'être heureux, pas pour garder le bonheur pour toi, pour le transmettre aux autres. Et je crois que ça, la veille encore de son décès, il me l'a rappelé dans, lors d'une conversation. Hein, je crois qu'il l'a dit, oui, c'est ce que j'ai essayé de faire hein, au cours de ma vie. Et si son livre et sa révolte a autant fonctionné, a autant œuvré, a eu autant d'impact, je crois que c'est parce que c'était un révolté heureux. C'était un homme heureux. Hein, il se levait le matin, je me souviens l'avoir accompagné pour défendre son livre en Allemagne. Hein, j'allais le chercher chez lui à 6h du matin. Il saluait les éboueux, il prenait l'avion. À 11h du soir, on revenait. Il récitait un petit poème dans l'avion, mais il était toujours aussi heureux et il communiquait ça aux autres.
Indignez-vous, faites ses 15 ans donc, ce mois-ci, mois d'octobre. Ce texte a remporté un énorme succès. Et vous, amis auditeurs et auditrices, vous pouvez évidemment témoigner, nous envoyer vos messages et vos questions sur la page de l'émission, sur nos réseaux sociaux, également vos notes vocales sur l'application Radio France.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Curieusement, ce livre est tombé à un moment particulier, à un moment où en France, mais peut-être dans le reste du monde aussi, on se soucie de l'avenir, on se demande que ce qui se passe est-il conforme aux valeurs que nous portons en nous, aux valeurs traditionnelles. Non, ce qui se passe n'est pas conforme. Et cela est dit par des gens beaucoup plus calés que moi, des économistes qui le disent, des Lipschitz, des Suzanne George, qui font des bons livres. Mais il fallait qu'un petit texte court attire l'attention de nos contemporains et de nos compatriotes sur ce qui n'est pas acceptable dans la façon dont la politique est actuellement gérée. Il y a donc lieu de s'indigner.
La voix de Stéphane Hessel sur France Inter dans le 7-9 en novembre 2011 au micro de Pascal Clark, Sylvie Crossman. Vous qui avez édité il y a donc 15 ans tout juste ce texte de Stéphane Hessel. De quelle sorte d'indignation d'ailleurs il nous parle dans... Comment il faut l'entendre en fait ?
Oui, c'est très important au moment justement où on appelle beaucoup à cette notion d'indignation et on appelle le nom, on rappelle le nom de Stéphane. L'indignation, si on regarde bien le texte, il y a une phrase fondamentale où Stéphane dit « L'indignation, c'est le sentiment... » D'abord, l'indignation, ça n'est pas la colère. Hein, il rappelle, c'est un philosophe aussi, hein, il est entré à Normale Sup en option philosophie, et Aristote, au 4e siècle de notre siècle, définissait l'indignation en opposition à la colère. L'indignation, c'est toujours le souci de l'autre, hein, la considération de son prochain. Alors que la colère, on entre en colère quand on réagit à quelque chose qui a été fait à son bien personnel. Hein. L'indignation, c'est toujours lié au bien commun. Hein. Et c'est surtout, dit-il, hein, on le retrouve dans... Il faut relire ce petit texte court, pas plus gros qu'une crêpe, hein, on dit les uns... On verra que Stéphane Hessel définit l'indignation comme, et notamment la faculté d'indignation, comme la composante essentielle qui fait l'humain. Donc l'indignation, c'est inséparable de l'humanité. Donc perdre son indignation, au fond, c'est risquer de ne plus être un humain.
Vous disiez tout à l'heure que Stéphane Hessel était plus associatif que politique. Oui. Le livre sort dans quel contexte ? Essayez de nous remettre un petit peu l'état des lieux de l'époque en 2011, parce que ce qui est évidemment surprenant, c'est qu'on peut quasiment faire un copier-coller de ce qui se passe aujourd'hui.
Absolument, en décuplé. Mmh. Hein. C'est la fin de la grande crise financière de 2008, hein, où on a demandé à l'État de renflouer les banques, alors que les pauvres personnes qui avaient contracté des prêts ne pouvaient plus payer leurs prêts. Hein, c'est la fameuse crise des subprimes. C'est aussi le moment d'une grande manifestation contre les retraites, hein, qui commençait à s'épuiser, qui avait été reprise par la jeunesse. C'est le moment où on commence à beaucoup toucher à la sécurité sociale. Hein. C'est le moment où, 2009, il y a eu la grande opération plomb durci des Israéliens qui ont attaqué la bande de Gaza, hein, les Palestiniens, le Hamas. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est aussi le moment où on constate de plus en plus que l'écart entre les très riches et les très pauvres ne cesse de grandir. Donc c'est vraiment, vous voyez, toute cette constellation de motifs.
C'est ce terreau qui explique aussi le succès du livre, selon
vous ? Bien sûr, bien sûr.
Pourquoi il a autant touché, d'ailleurs ? Comment vous l'analysez a posteriori ?
Alors, parce qu'effectivement, c'est une période propice hein, à cette indignation, mais aussi par la personnalité de cet homme qui est d'une légitimité parfaite. Hein, c'est un homme à qui on ne peut rien reprocher, qui a vécu le siècle, qu'il a traversé pendant presque un siècle entier. Il en a vécu tous les moments. C'est un homme qui a assisté à la rédaction de la Déclaration universelle des droits humains. Hein, souvenons-nous de ça, en 48, qui est proclamé en 48. Et il a assisté à cette rédaction. Donc ouais. C'est un personnage très précieux. Il va raconter ça, il le défend. Hein, et c'est surtout un grand défenseur du droit international. Et d'ailleurs, c'est à ce titre hein, qu'il ne cessera d'incriminer le gouvernement israélien en disant... Je m'indigne de ce que vous faites à Gaza.
Ce qui va lui valoir d'énormes critiques. On va en parler dans un instant de la Palestine. Lui qui a été accusé d'antisémitisme pour avoir pris justement ses positions pro-palestiniennes. À quel moment les premières critiques d'ailleurs commencent à fuser autour d'Annie Nevo ? Parce que le succès était tel que tout le monde s'est mis à commenter et les hommes politiques de premier plan d'ailleurs, comme le Premier ministre de l'époque,
bien sûr,
François Fillon.
Dans ses vœux, François Fillon dira « Oui, j'ai entendu dire qu'un petit livre faisait fureur, mais il dit l'indignation. Stéphane Hessel, vous prêchez une fausse. Enfin, l'indignation pour l'indignation, ça n'est pas un mode de pensée. Ouais. Ce que n'a jamais dit Stéphane, hein, il a toujours dit c'est l'éveil d'une conscience éthique. Hein, ce que tout le monde dit, hein, Paul Ricoeur, par exemple, qui réfléchit à l'indignation, dira ça, c'est la première apparition chez l'enfant, l'indignation du sentiment éthique. On a dit aussi que c'est un sentiment pré-politique. Vous voyez, c'est quelque chose qui précède un engagement, hein, l'indignation. Zemmour aussi dira, c'est parce qu'il faut se souvenir...
Il était chroniqueur sur RTL.
Il était chroniqueur sur RTL et il dira, c'est du plus grand, de la plus grande mode, je crois, à Noël, de mettre un petit indignez-vous dans les chaussures, comme on mettait autrefois des clémentines, et du papier-aisselle, hein, en mangeant son foie gras. Fillon, Luc Ferry aussi, qui dira, attention, ce n'est pas l'indignation. Vous allez même dans le sens de la violence. Il osera dire à Stéphane Hessel, attention, vous allez dans la pente, revenez, ce n'est pas bien. Quoi,
parmi les critiques, Boris Cyrulnik, m'indigne qu'on nous demande de nous indigner parce que l'indignation est le premier temps de l'engagement aveugle. Il faut nous demander de raisonner et non de nous indigner. C'est incroyable de la part de Cyrulnik.
Ah oui, c'est incroyable. Et je crois que beaucoup de gens ont été jaloux aussi du succès de ce personnage qui, au fond, professait ce devoir d'indignation avec tranquillité.
Cyrulnik n'est pas en reste hein, au niveau du succès.
Non, c'est sûr, c'est pour ça, oui, on se demande pourquoi. Mais il y a aussi beaucoup de choses, parce que le succès du livre est parti aussi du Sud. Hein, il est parti de Montpellier, où on
c'était
avait
là
notre
où était
maison,
le
d'édition.
Siège de votre maison d'édition.
Voilà,
ouais.
Les libraires indépendants l'ont beaucoup soutenu. Ensuite, il a ricoché sur Toulouse, grand foyer des républicains espagnols. Il est monté vers la Bretagne, qui est une terre toujours de révolte. Et il a touché Paris après. Et finalement, je crois que l'intelligentsia française a un peu rechigné ce vieux monsieur très
édité
sage,
par un provincial, en plus par une maison d'édition provinciale.
Une maison d'édition où il y avait deux personnes qui avaient créé cette maison et totalement indépendante. Ça a été aussi le succès d'une constellation de l'édition indépendante. Diffusion indépendante, Harmonia Mundi, notre diffuseur, librairie indépendante, éditeur indépendant.
Évidemment, vous étiez loin de vous imaginer le succès qu'allait générer les ventes.
Oui,
puisqu'on l'a... Vous l'avez publié à combien au départ ?
8 000 exemplaires, et pour nous c'était beaucoup. Hein.
Ouais.
Et en l'espace de 3 mois, on est arrivé à 1 million d'exemplaires. Et il y a eu une chose assez folle, c'est qu'au bout de 1 million d'exemplaires, on a reçu un coup de fil de notre diffuseur qui nous a dit, écoutez, je suis embêté parce que les grandes surfaces se plaignent, Indignez-vous n'arrive pas assez vite et vous allez être accusé de délit de non-vente.
Ouais.
Et là, Jean-Pierre Barou, qui est mon compagnon avec qui on a créé cette maison d'édition, a téléphoné à notre imprimeur, qui était le fils d'un vieux républicain espagnol, et lui a dit... 600 000, tu imprimes à 600 000 d'un
incroyable,
coup.
Incroyable, 600 000. Et in fine, vous en avez vendu combien ?
In fine, on en a vendu plus de 4 millions à travers
millions.
Le monde.
Ils s'en vendent toujours chaque année.
Ils s'en vendent toujours chaque année. Et là, on espère qu'avec la réédition par Rue de l'Échiquier, au sein de notre collection indigène qui nous accueille, va relancer, avec la préface de Salomé Sacquet, va relancer le livre.
Pourquoi
600 000, c'était plus que Blake et Mortimer.
Ouais. Pourquoi, pourquoi Salomé Sacquet, d'ailleurs, pour la préface ? C'était l'héritage naturel, au fond, de la pensée de Stéphane Hessel.
C'est elle qui, Salomé Sacquet, qui avait 15 ans au moment d'Indignez-vous, et qui se réclame de cet héritage de Stéphane Hessel, qui lui a donné l'envie de résister, le dégoût de l'indifférence, qui a écrit ce petit livre qui a beaucoup de succès, Résister, qui est intéressant, ouais. Et qui a créé des podcasts sur France Culture où elle parle de comment s'indigner aujourd'hui. Donc ça nous a paru le relais d'une génération, et c'est très important que les générations s'emparent de ce texte.
On le disait tout à l'heure, l'engagement pro-palestinien de Stéphane Hessel va faire grincer beaucoup de dents. Le Conseil représentatif des institutions juives de France s'est mobilisé. Claude Lanzmann va jusqu'à affirmer dans Le Point que la prétendue haine d'Israël de Stéphane Hessel semble garante de sa longévité. Il est clairement accusé d'antisémitisme pour avoir pris ses positions pro-palestiniennes. Mmh. Alors que, vous le rappeliez tout à l'heure, son père était juif. Il avait été lui aussi déporté à Buchenwald par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il refusait de se laisser enfermer dans un soutien aveugle à Israël qu'il aimait pourtant.
Voilà, c'est une honte. Je me souviens, on l'a accompagné pour défendre son livre à Strasbourg, où il a été interpellé sur scène par une militante du CRIF. Et c'est la première fois que je l'ai vu avoir un geste presque de... pas de violence, mais enfin, il l'a attrapé par le col de son manteau en disant « J'aime Israël plus que vous. J'ai applaudi à la création d'Israël. Je défendrai Israël, l'État d'Israël jusqu'à ma mort. » Mais c'était resté un homme profondément croyant dans le droit constitutionnel et le droit international. Et pour lui, Israël, le gouvernement israélien, ne respectait pas des accords qui avaient été pris d'abord en 67, ensuite en 80 après la guerre des Six Jours, ensuite en 95 avec les accords d'Oslo. Il considérait que Israël était en violation du droit international et il ne voyait pas pourquoi Israël échappait à cette critique. Il n'y a rien d'un antisémitisme.
C'est ce qu'il écrit dans Indignez-vous. C'est pourquoi, dit-il, je suis aussi sévère avec Israël. Mon amour pour Israël est plus profond que le vôtre, parce que je veux qu'Israël soit une nation honnête. Certains réagissent avec beaucoup d'émotion quand je critique Israël. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois en la valeur universelle des droits de l'homme et je considère que quand le gouvernement d'Israël occupe les territoires palestiniens, il le fait en violation des principes énoncés par les Nations Unies en 1967. Il enfreint le droit. Il doit être critiqué pour ça, comme on le ferait de tout autre État qui agit ainsi. Israël n'est pas au-delà du droit international. Et ça, c'était incompréhensible. Et avec ce type de propos, on l'accusait d'antisémitisme.
Ah oui, ça a été épouvantable. Même nous, on a reçu des menaces pour avoir publié ce texte. Et c'était d'autant plus incompréhensible que la position de Stéphane était une position très claire et qui dépassait les passions. Vous voyez, c'est pas... Il défendait pas la cause palestinienne par passion. Il défendait la cause palestinienne parce qu'il pense... Enfin, la cause palestinienne. Il s'opposait à l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie, où il était allé par 5 fois. Donc, il était... Et d'ailleurs, il avait été invité par un groupe de juifs français pour aller voir ce qui se passait à Gaza. Donc, il revenait. C'était pas une position comme ça éthérée, indépendante.
Il était allé sur le terrain.
Il est allé sur place, il a vérifié, il a vu des choses et il a rapporté.
On va écouter un extrait de France 3 en 2011 autour de l'Espagne, parce que Indignez-vous a été traduit, on le dit, dans 45 langues, et là où il a eu le plus de succès, c'est en Espagne. Il a même créé le mouvement des Indignados.
Nous sommes ici car nous voulons un avenir meilleur, un monde meilleur.
Toutes les générations sont assemblées sur cette place. Et je pense qu'il y a un espoir de changement.
C'est un mouvement inédit mené par des citoyens pacifistes et indignés par l'injustice sociale, les passe-droits et les dérives du capitalisme. Privée de rêves et d'espoir, la jeunesse, première victime du chômage record, n'a plus rien à perdre.
Alors un mot quand même de l'Espagne, parce que ça a vraiment entraîné, a entraîné un mouvement populaire.
Oui, le fameux mouvement des indignés espagnols, le mouvement du 15M qui s'est créé effectivement le 15 mai 2011 sur la place Puerta del Sol en plein Madrid, où on a vu des marées humaines envahir cette place, s'installer, créer aussi cette nouvelle forme de résistance qui est l'occupation des places qu'on verra après avec les zadistes. Il s'agissait vraiment de... C'était une nouvelle forme de résistance, cette occupation, et l'Espagne a été la première, effectivement, c'est là que le livre s'est le mieux vendu, plus de 500 000 exemplaires, c'est là qu'on a assisté à la naissance d'un nouveau parti dans un pays qui venait du franquisme, avec ce ce bipartisme mortifère. Hein. Bon, alors, on peut dire que Podemos n'a pas rempli tous les espoirs, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ça a engendré une nouvelle forme de parti. Il y a eu les fameux mouvements des tentes en Israël, hein, où pour la première fois, à Tel Aviv, on commençait à critiquer l'impact des dépenses militaires, qu'il y avait trop de dépenses militaires dans le budget et qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Il y a eu au Japon aussi, c'était le moment de Fukushima, la catastrophe.
Fukushima, mars 2011.
Voilà, mars 2011. Donc il y a eu une sorte de... voyez, de correspondance comme ça.
Même aux États-Unis, d'ailleurs.
Surtout aux États-Unis. Hein, mouvement... Occupy Wall Street, j'oubliais bien évidemment, qui est un des grands effets de cette résistance, où tout d'un coup, on attaquait à Wall Street
le pouvoir de l'argent.
Le pouvoir de l'argent. Et d'ailleurs, quand Stéphane est allé défendre son livre, qui s'appelait Time for Outrage, qui est paru aux États-Unis, l'éditeur distribuait Time for Outrage à la sortie du métro Wall Street, en plein cœur de la finance et de la bourse.
Sylvie Crossman, on va voir comment résonne ce livre aujourd'hui, évidemment. Et puis, vous allez répondre aux messages, aux questions qui arrivent sur franceinter.fr et sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Dans toutes les librairies de France, c'est la cohue. Chacun veut avoir son exemplaire d'Indignez-vous. Le phénomène semble inarrêtable. Certains l'achètent par dizaines pour les distribuer autour d'eux, tels des tracts politiques. Car il s'agit bien de cela. Indignez-vous est un appel à la résistance. Mais qu'arrive-t-il aux Français ?
Extrait de dimanche 13h15 sur France 2 en 2011, donc en plein cœur du phénomène éditorial Indignez-vous, Sylvie Crossman, puisque vous êtes l'éditrice historique de ce texte qui fête donc ses 15 ans avec une nouvelle édition revue et corrigée, préfacée par Salomé Saquet, qui paraît
édition
donc pour...
Rue de l'Échiquier.
Voilà, édition Rue de l'Échiquier pour cet anniversaire. Une aventure éditoriale pareille pour une maison d'édition comme la vôtre, ça n'arrive évidemment pas tous les jours. Qu'est-ce que ça a provoqué aussi chez vous ? Dans votre travail d'éditeur et d'éditrice
D'abord, ça a été merveilleux parce qu'on s'occupait des aborigènes d'Australie, des Amérindiens, des Tibétains. Donc ça a donné un impact à ce qu'on faisait et puis un éclairage sur ce qu'on faisait. Et donc ça a été extrêmement important. Ça a été parfois un peu troublant parce que on était une petite maison, on travaillait depuis le grenier de notre maison personnelle et sur nos livres, il y avait notre adresse, notre téléphone, donc on recevait des coups de fil insensés, comme je me souviens d'un coup de fil d'une vieille dame qui m'a dit « Écoutez, j'ai fait tout ce que monsieur Essel dit, je me suis indignée, j'ai viré mon mari, j'ai viré mon boulot, je me suis fait vider de mon boulot. Eh bien, rien ne va plus. Qu'est-ce que je dois faire, madame ?»
Donc c'était une lourde responsabilité.
On n'en pouvait plus, c'est une lourde responsabilité, mais ça nous a donné une liberté.
Et Stéphane Essel, il a aimé le succès à 94 ans.
Il a adoré.
C'est vrai.
Il a dit ces dernières années, ça a été une farandole merveilleuse. Et je crois que je me souviens de lui l'accompagnant à en Italie où il défendait son livre à ce moment-là aussi. Et il m'a dit, il s'est retourné, il a posé sa main, il m'a dit, écoute. Tu as vu ce que nous avons fait avec ce petit livre, c'est pas merveilleux.
Il était en tournée permanente, il a fait vraiment deux ans de promo.
Ça lui a donné, une jouvence, un sursaut de jeunesse extraordinaire. Ouais. Il était déjà juvénile, mais ça a accéléré. Alors, ça lui a peut-être supprimé quelques années, enfin une ou deux années de vie, mais ça, il s'en fichait. C'était beaucoup plus important d'avoir cet impact, ce succès pour un vieux monsieur comme ça.
Donc c'était votre grand chef aborigène finalement, Stéphane Essel.
On rigolait, on disait, tu es notre vieille initiée aborigène et surtout tu as un devoir de longévité. C'est une dernière chose qu'on lui a dite.
Quel type de résistance pourrait correspondre aujourd'hui à l'esprit de Stéphane Essel, Sylvie Crossman ?
Alors c'est intéressant, vous voyez, il disait souvent, moi je n'aime pas les révolutions. Les révolutions, ça finit toujours mal. Et j'appelle plutôt à une réforme radicale de l'esprit. Et cette expression, il l'a prolongée dans un dialogue avec le Dalai Lama, qu'il a eu, donc qu'on a suscité les dernières années, en 2011, qui a été publié aussi. Et dans ce texte, il plaide pour une démocratie spirituelle. Donc vous voyez, c'est quand même des choses qui vont au-delà, c'est comme l'indignation, ça va au-delà presque des aléas de l'histoire. La faculté d'indignation, elle est inséparable de l'humain, de l'existence.
Certains vous diront que certes, c'est tout à fait sympathique de proposer une démocratie spirituelle, mais que pour faire vraiment bouger les lignes, il faut passer aussi à l'action et que les choses se fassent concrètement.
Oui, mais il y a plein de choses qui se font aujourd'hui. Je crois que le problème, c'est aussi qu'on est dans un monde où la presse est entre les mains des grands, de la finance, hein, entre les mains de gens qui ont intérêt à faire progresser les partis d'extrême droite, à faire progresser la haine. Ça, c'est très important. Il faut surtout, au moment où on invoque beaucoup l'indignation, il faut montrer que la haine et la colère sont parfois des entraves à l'indignation. Il ne faut pas tomber, c'est le risque, c'est de tomber là-dedans et de négliger la non-violence. Le message de Stéphane Hessel ultime, c'était la non-violence. Vous avez parlé tout à l'heure de l'espoir et de l'exaspération. Il dit l'exaspération parfois est naturelle, mais surtout il faut la dominer.
Mais quel regard il aurait porté sur les Gilets jaunes, par exemple, ou sur le mouvement annoncé pour le 10 septembre, avec cette volonté de tout bloquer là.
Je pense qu'il aurait été d'accord, qu'il aurait accompagné, mais toujours avec son espèce de flegme, de calme, en disant attention les enfants, ne basculez pas, restez toujours dans le droit. Le droit, cette grande notion, cette grande valeur, cette valeur universelle, rester universelle, grâce à Cassin, il faut se souvenir, et ça il le rappelait sans cesse, qu'on a parlé de, on a décidé que la déclaration des droits humains serait universelle et non pas internationale, comme le voulaient les anglo-saxons. Universelle, c'est une façon de dominer les souverainetés nationales et d'œuvrer. Partout, sur Terre, sur la planète.
On passe aux questions des auditeurs et auditrices pour vous, Sylvie Grossmann. Et on va d'abord écouter la voix de Gabriel qui vient de nous laisser une note vocale sur l'application Radio France.
L'indignation, finalement, c'est pas si simple. Ça demande quand même de réfléchir, de vouloir entrer dans un débat, puisque si c'est pas la colère, ça veut dire qu'on est plutôt dans la réflexion. C'est pas si simple de s'indigner, je pense.
Oui.
Sylvie Grossmann, oui, pour
répondre
à Gabriel.
Je pense que vous avez tout à fait raison et vous êtes tout à fait bien placé dans le leg de Stéphane Hessel. Il faut réfléchir quand on s'indigne. Sur la non-violence, par exemple, ça n'est pas quelque chose de naturel. La non-violence, c'est une conquête culturelle, une conquête sur soi. Gandhi l'a dit et Stéphane Hessel n'a cessé de le répéter. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison et continuer à réfléchir.
Christian nous écrit en nous disant « Hessel, s'il vivait encore, serait traité de woke par tous les droitistes actuels. Est-ce que ce serait le plus grand ambassadeur du wokisme aujourd'hui ?»
C'est un grand ambassadeur et comme il a un grand humour, il serait tout à fait d'accord pour être traité de wokisme en balayant ce mot qu'il n'aurait pas aimé, pas assez poétique peut-être pour lui.
Oui, mais l'idée du progressisme en tout cas devait fortement l'intéresser quand même.
Bien sûr, il croyait au progrès. Il disait « Je suis un grand admirateur de Hegel, parce que je pense que tout ce qui est souhaitable doit être réalisé et réalisable. C'était un homme d'un grand optimisme, un homme de l'espoir, de l'espérance. Il disait, et il opposait parfois, il associait l'espérance. La seule fois où il parle de violence, c'est associé à l'espérance, en citant une phrase un vers de Guillaume Apollinaire dans Le Pont Mirabeau, comme l'espérance est violente.
Jean-Marc nous dit, quand le livre est sorti, nous en avons acheté 20 exemplaires que nous avons offerts à nos amis qui nous ont remerciés. C'était pas le seul, Jean-Marc, à l'avoir fait.
Non.
En plus, il est sorti avant Noël, donc ça a été vraiment le cadeau.
Oui, le cadeau de Noël, je vous dis, on le
met. Et le tract, parce que c'était aussi l'idée, c'était pas votre idée, mais ça s'est transformé presque en tract.
Un peu un samistat de l'époque, les résistants. Et j'espère que vous allez en racheter encore beaucoup pour les générations à venir.
Ça, c'est l'éditrice qui fait cette pub.
Petits-enfants, petits-fils, petites-filles qui ont besoin de se raccorder à ce grand courant de l'histoire.
Esther nous dit « Je suis tout à fait indignée, mais mes moyens de protester me paraissent bien réduits. Je suis assez lasse des indignés des réseaux sociaux, des pétitions et des clics qui ne vont nulle part que dans les data centers de notre système carbo-capitaliste. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Surtout, ne désespérez jamais. Et vous voyez, récemment, par exemple, on a assez peu parlé de ça, il y a eu un grand festival cet été dans l'Orne, Festival des Résistantes, où il y a eu plus de 7000 personnes qui ont planché sur non moins de 212 thèmes d'indignation. Et je crois que l'un de ces termes, l'un de ces thèmes, je vous le lis, c'était « Ils ont traité d'une culture de l'épuisement à une culture régénérative dans nos collectifs. » Donc il faut se régénérer dans l'espérance en permanence et surtout ne jamais céder ni à l'exaspération ni au désespoir.
Et les pétitions, parfois ça marche, on l'a vu avec la loi du plomb quand même, une partie en tout cas de la
Bien
loi.
Sûr.
Merci beaucoup d'être venu à ce micro, Sylvie Crossman, alors
Merci
que sort donc la nouvelle édition revue et corrigée à la rue de l'Échiquier, d'Indignez-vous de Stéphane Hessel, 15 ans donc après sa sortie en octobre 2010. Merci à vous.